Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui veut de la money. Sont durs. Nous sommes en pleine période de crise. Nous sommes en pleine période de crise et je suis aujourd'hui One Eye Pied, comme tous les autres jours en fait. Et je suis avec Thio. Bonjour Thio.
Hey.
Et nous allons encore vous parler pendant un temps indéterminé à l'heure où nous commençons l'enregistrement de bande dessinée.
Non, pas indéterminé parce que j'ai rancard après, je te le dis.
Oui, hein. D'accord. Enfin bon, indéterminé, à peu près.
À peu près. C'est ça.
Et on va commencer quand même à parler d'argent parce que quand même. Alors je suis ravi. C'est le plus beau des compliments que vous me faites quand vous m'annoncez que vous avez acheté de la BD sous nos conseils. C'est vrai. Non, attends, le mec qui te dit qu'il a acheté de la BD parce que hein?
Sous le conseil?
Sous nos conseils, sur nos conseils. Oui, non, ça va.
Non, ah, mais moi j'achète,
pas avec les mots.
J'achète sous les conseils. Hein,
j'achète sous les conseils. Ouais, bon,
je suis en dessous.
Donc voilà, tu m'as perdu. Tu m'as perdu. Donc le compliment, c'est vrai que ça fait plaisir. Alors, par contre, juste pour signaler que sur le site, on a mis un petit widget Amazon avec les couvertures. Alors, le problème, c'est que c'est un peu visible comme étant de la pub par les superbes extensions telles AdBlock, et donc on ne les voit pas. Ça permet de voir les couvertures, c'est plutôt joli. Et en fait, si vous commandez en suivant ces petits widgets, nous, on touche une misère, mais une misère qui peut nous permettre d'acheter encore plus de BD pour vous en parler. Donc, si vous avez aimé une de nos chroniques et que vous avez décidé d'acheter quelque chose là-dessus, n'hésitez pas à passer par les widgets. Ça mange pas de pain et ça sera notre salaire.
Ouais, enfin, on va quand même pas pouvoir s'acheter une maison dans le sud avec. Hein.
Non.
Faut pas rêver, quoi.
Non. Même dans le nord, en fait.
Ou alors très très au nord.
Ouais.
Chez les Esquimaux, peut-être.
Ouais, c'est possible. Le mètre carré là-bas est
peut-être pas cher.
Ouais. Voilà, donc allez jeter un œil sur le site, lavoixdesbulles.fr. C'est dans les. C'est dans chaque article.
Partout.
Voilà. Ensuite, je décidais de lancer une opération terrible. Une opération que nous allons appeler le 1A Club Othon.
Ça ouais, pourrait faire un sandwich, ça.
Ouais, oh, le 1A Club Othon.
Le Club Othon.
Et oui, c'est très sandwich. Alors, en gros, ça ne peut plus durer. Lorsque je vais sur iTunes et que je regarde le 1A Club, mais qu'est-ce que je vois? Je vois un commentaire qui dit... C'est le premier truc que je vois. Hein. Oh, c'est bien pour un podcast dans ses débuts. Mais non, mais là, ça va, on n'est plus dans nos débuts. Donc, si vous voulez, vous pouvez dire, c'est mal pour un podcast qui a déjà un an. C'est pas grave, mais il faut que cette notion disparaisse. Alors, ce n'est pas que j'en veux à Chaos Storm qui avait laissé ce commentaire, qui nous avait touché énormément au départ et qui nous fait plaisir, mais nous ne sommes plus dans nos débuts. Alors, allez en masse sur iTunes. Si vous n'êtes pas sur iTunes, quoi que ce soit, faites comme moi, mettez une machine virtuelle sous Linux pour lancer un Windows qui lancera un iTunes qui vous permettra... Bref... Allez en masse sur iTunes et dites ce que vous pensez de notre podcast, même si c'est mal. D'un autre côté, si vous nous écoutez à l'émission 26, c'est soit que vous nous découvrez, soit que vous trouvez que ce qu'on fait, c'est pas trop mal. Donc dites-le, on sait que vous êtes nombreux à nous écouter.
Bon, le post peut commencer par Prums, pour aller dire que c'était bien le premier qui est venu et qui a dit « moi je mets un nouveau post ».
Faites remonter ça, on peut aussi voter pour dire « mettez en avant ce commentaire plus qu'un autre ». Enfin bref, faites descendre ce commentaire. On n'est plus en au début quoi, merde. On peut passer aux choses sérieuses, c'est bon, on a fait le truc auto-promo, la monnaie.
On y reviendra après.
On y reviendra, la monnaie. Et nous allons donc commencer par le presque neuf.
Et encore de la monnaie.
Et du presque neuf, tranquille et zen. Ah. Nous allons attaquer les Ultimate Avengers number 5 chez Panini Comics au doux prix de 4 euros.
Et là, c'est de la bombe.
Donc, un scénario de... c'est qui d'ailleurs? C'est Millar, je crois. Hein. C'est Millar en scénario.
Oui,
Marc Millar.
Pardon, j'allais dire malheureusement, j'ai pas commencé.
Voilà, avec un superbe dessin de Lenil Francis Yu et ancré par Jerry Allen Gillan, que j'aime bien en général, en tant qu'encreur. Disons-le, les dessins sont pas mal. Hein. Non, bon, Lenil Yu nous a déjà fait mieux. Mais même du mauvais Lenil Yu, c'est pas mauvais.
Ouais. Non, non, c'est vrai que non, il y a des bons passages. Il y a des bons passages. Je te laisse finir. Vas-y.
Ouais, non, mais voilà, c'était juste pour parler un peu du dessin. Donc le dessin, rien à dire. C'est ça la classe. Et on en arrive au scénario. Donc le scénario de Ultimate Avenger numéro 5. Nick Fury a monté son équipe de Black Ops avec que des fous furieux psychopathes. Donc l'ancien mentor de Hulk, mais qui est pas vert, qui est noir. Je sais pas, voilà. Un Punisher avec une armure de combat qui fait vaguement penser à du Captain America parce qu'il y a une étoile sur le front. Bref, et il décide d'aller
latter. Il a pensé aux Sentinelles.
Ouais, il y a de ça. Enfin bon, avec le War Machine, ouais, machin chose. Enfin bon, une équipe de psychopathes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont latter la gueule au Ghost Rider. Voilà. C'était le scénario. D'ailleurs, je me souviens même plus s'il latte la gueule à la fin.
T'as tout résumé.
Oui.
Il manque rien, là.
Voilà. Comme je sais que tu aimes lâcher ton fiel et dire du mal, je t'en prie, vas-y, je t'écoute.
Donc, je vais dire que c'est une belle merde. Voilà. Hein. C'est, voilà, on a mis de la couleur, on a pris un bon dessinateur, mais je pense que là, Mark Millar, il avait autre chose à faire. Je sais pas, il a un autre projet en cours. Il sait un film.
Ouais, mais il n'y a pas des passages qui étaient sympas, intéressants, genre qui c'est ce faux Spider-Man, on se posait un peu des questions quand même, il y a des trucs qui sont intrigants.
C'est vrai, ça oui, on a la solution sur ça, on sait que Nick Fury s'est tapé toute la famille de...
Enfin bon, il s'est tapé toute la famille d'un personnage, ouais, bref.
C'est une merde, c'est une sous-merde, c'est un truc innommable, je ne sais même pas comment est-ce que Mark Millar peut dire qu'il a fait un scénario là-dessus, quoi.
Mais on le saura peut-être qu'autant quand j'achèterai le 6, car je vais tomber dans le piège d'acheter le suivant, hein, on fera « Waouh, comme ils nous ont bluffé !» Bon, clairement,
c'est mal parti quand même. Hein.
Ce qui choque énormément, c'est ce côté surnaturel du Ghost Rider, dans un univers qui jusqu'ici avait plutôt une tendance à la technologie, et où même le surnaturel qu'ils avaient inclus avec Thor, par exemple, restait à une sorte de lisière douteuse, on était dans le fantastique, on savait pas trop. Et là... Ce Ghost Rider, mais il tombe comme un cheveu sur la soupe. On ne sait pas ce qu'il fout là. Et ça gâche un peu, quoi.
C'est surtout que ça arrive maintenant. Voilà, je veux dire, c'est d'un coup, paf, on a le monstre de la semaine qui débarque.
Oui, et puis en plus, il nous avait habitué à des enjeux un peu plus costauds que le gars avec sa moto enflammée qui va être... Non, le vice-président, attends, le président...
Ah, c'est vrai, lui, il n'a rien fait de mal.
Voilà, parce que le Ghost Rider va sans doute en vouloir au vice-président. Bref, ouais, je crois qu'on a fini sur Ultimate Avengers. Hein,
ouais, passe.
On parlera du 6, un de ces 4, pour dire si c'était bien. Et puis on continue dans les comics. Allez, continuons dans les comics. Et on attaque un numéro 12. Un numéro 12. Undread Bullets, le numéro 12. Par Brian Azzarello et Eduardo Risso, comme à l'accoutumée. Le tome commence par Shepard qui s'est pris une balle, qui est bien blessé, qui téléphone à Lono qui est en prison en disant qu'il est mourant.
Avec bébé Hughes.
Avec le bébé Hughes. Et qui dit qu'il va mourir et qui dit à Lono, je te fais sortir, là comme ça, hop, je claque des doigts et tu sors, mais il va falloir que tu fasses quelque chose pour moi. Parce que les choses sont pas faciles, hein. Et en parallèle de ça, on a en gros les pontes du Trust, les familles du Trust, qui essayent de se gérer pour savoir si ils vont laisser une famille prendre la mainmise sur le Trust en entier ou pas. Et Graves, qui est dans le coin, histoire d'essayer de tirer les ficelles dans tous les sens. Bref, beaucoup d'implications politiques, beaucoup de magouilles, pas mal d'actions quand même aussi. C'est quand même toujours super dur, hein, résumer Undread Bullets.
Il y a tellement de mélange entre les personnages, entre les familles. Et puis surtout, c'est qu'il y a tellement de personnages dans tout. Ouais, là, c'est... Il y a trop de monde et il y a trop d'histoires parallèles, quoi.
Ouais. Mais pourtant, chaque tome se tient au niveau de l'intrigue. Je trouve. Oui, parce que là, on a le détective qui était là pour le numéro... zut, c'était le numéro 25 US, mais je ne sais plus le numéro combien français, qui revient, qui lui voulait rester à l'écart du Trust, mais on le remet le nez dans la merde et il se retrouve à redevoir fouiner parce que c'est plus fort que lui, en fait. à côté de ça, on a une histoire...
Il, enfin, il a quand même cru qu'il allait canner, quoi.
Oui.
Donc il a dit, bon, ben, ça va, j'y retourne.
À côté de ça, on a une histoire parallèle avec un trafiquant de drogue et un groom qui est dans l'hôtel. Et sa copine sort avec le trafiquant de drogue. Et, enfin bon, c'est un petit peu l'intrigue, on va dire. C'est pas l'intrigue principale, c'est en lien avec l'intrigue principale. Ça roule en parallèle de cette intrigue principale, mais c'est ce qui dirige un peu le ton de l'album. Et c'est bien glauque, en fait, surtout.
Mm-hmm.
Bref, un très bon tome. Je pense que notre chronique est une très mauvaise chronique, par contre, pour une bande dessinée qu'il faut absolument suivre, parce que Undead Bullets, bah, c'est quand même...
12 tomes, et a priori, je pense que quand on sera arrivé à la fin, il faudra tout reprendre. Voilà. C'est ce qu'on a déjà dit à chaque fois qu'on a eu un tome, mm-hmm. mais bon.
Ça, par contre, je note qu'au niveau des traductions, ça s'est beaucoup accéléré. Ça va beaucoup plus vite. Ça fait pas longtemps qu'on a parlé du tome 11. On est déjà au tome 12. J'espère, je ne désespère pas de voir la fin de la série d'ici 2 ou 3 ans.
Elle est finie ?
Elle est finie aux États-Unis, oui. D'après toi, il y a combien de volumes ? En US ? 100 ?
100, ouais.
Voilà.
Ça tient la route, hein.
Ça tient la route. Ils usent leurs 100 cartouches. Donc c'est chez Panini, ça vient de chez Vertigo aux États-Unis, et ça coûte... C'est toi qui as le prix dessous, ça doit coûter 13 euros.
13 euros.
Comme je suis fort.
Et nous passons donc à la suite.
Spirou Dream Team, Marcinelle Blues. Aux éditions d'Arpuis Long Canard.
Ça pète comme dans les éditions.
Voilà, qui doit coûter dans les un peu moins de 10 euros parce que c'est DU01 qu'on a oublié de regarder le prix. J'ai oublié, voilà, c'est ça.
Parce que c'est pas moi qui fais ça.
Ouais, c'est pas toi.
En fait, en même temps, je fais quasiment rien. Je viens juste, je gueule dans le micro et je me casse.
Donc, c'est une bande dessinée, en fait, éditée par Dupuis, hein, qui est scénarisée par Yann et dessinée par Simon Léturgie. À ne pas confondre avec Jean Léturgie, son papa. Rapidement, les auteurs. Yann, il a fait 40 000 trucs. Il a fait les pin-up, il a bossé sur deux des aventures de Spirou, Spirou et Fantasio.
Marsupilami.
Il a travaillé sur le Marsupilami, il a travaillé sur du Lucky Duke, sur Kid Lucky un moment aussi. Il a fait les Innommables, ce qui sont un peu son gros morceau. Bref, un scénariste qui a un petit peu de la bouteille derrière lui. Et Simon Léturgie, qui lui... est un dessinateur, je pense, assez rapide, parce qu'il a beaucoup, beaucoup de BD à son actif. Très peu de gros succès, malheureusement, j'ai l'impression, alors que j'aime beaucoup son style bien dynamique. Surtout sur Spoon & White, par exemple, que j'aime beaucoup. Je sais pas si tu connais Spoon & White.
Le nom me dit quelque chose, donc t'as dû me faire lire un moment.
Ouais,
peut-être que non, j'ai peut-être dû le lire dans le journal Spirou.
Ouais, enfin bon, Spoon & White, c'était très très bien, et puis plein d'autres séries, Polestar...
Dans ton journal Spirou,
Tequila, je crois. Tequila, etc.
Ça passait dans le journal Spirou, non ?
Spoon & White, je crois que c'est passé un moment. Mais c'est passé dans tellement de magazines, Spoon & White. Je crois que les premiers, je l'ai lu dans un Beaudeuil, à l'époque. Déjà, parlons de l'objet.
Joli.
Joli, c'est une belle parodie d'un album de chez Rombaldi. L'album des collectionneurs. Je ne sais pas si tu connais les albums Rombaldi.
Bon,
les albums Rombaldi, c'est des éditions de luxe de bande dessinée, en général. Donc tu as les Tintins, les Astérix, etc. Avec du vrai cuir, là, pour le coup. Là, je ne pense pas que ce soit du vrai cuir. Doré, à l'or, machin chose. Des trucs de luxe.
C'est quoi l'intérêt ?
C'est de la bande dessinée de luxe. C'est comme un beau tirage de tête, tu vois.
Bon. Mmh. Ouais.
Okay. Donc les Rombaldi, c'est trop la classe, des trucs de collection. Et qu'est-ce que ça nous raconte que cette histoire ?
Bah, que c'est la crise.
Ouais.
Et que Dupuis, il faut qu'il se...
fasse de la money !
Ouais. Eux aussi, ils en sont au même point. Hein. Et ils ont que quelques millions et il faut monter. Hein. Il faut monter en puissance. Alors ils cherchent une nouvelle solution. Et pour chercher de nouvelles solutions, il faut prendre des nouveaux dessinateurs, des nouveaux scénaristes. Et
des nouvelles orientations.
Une nouvelle orientation, une nouvelle politique.
Les actionnaires secrets de Spirou Magazine, dont d'ailleurs sur tout l'immeuble il y a Tintin et Milou, bon, c'est pas grave, ont embauché un nouveau rédacteur en chef et son équipe un peu derrière de bras cassés pour.
La Dream Team.
La Dream Team. Alors, ce qui est marrant, c'est que je pense que c'est un peu le remplacement du boss. Je sais pas si tu te souviens de la série Le Boss dans Spirou. Alors, ça fait longtemps que je ne lis plus Spirou, malheureusement. Donc, à l'époque du précédent rédacteur en chef, donc, il y avait la série Le Boss qui mettait en scène Le Boss, qui verrait les dessinateurs, etc. C'était assez rigolo, dessiné par Bercovici, l'homme aux 50 000 séries. Il y avait, bon, c'était assez inégal, il y avait des gags plus ou moins variés, mais c'était surtout quelque chose qui permettait d'animer le magazine, en fait, parce que le boss intervenait beaucoup dans les animations du magazine. Il y avait une représentation du rédacteur en chef. Et là, on est plus dans le côté très critique, mais étonnamment critique, parce que ça passe dans Spirou, quand même, ce truc. Apparemment.
Ouais.
Voilà. Donc, c'est quand même super critique, et les mecs s'attaquent à tout. Les filles dans la bande dessinée,
le manga
Kanaruto.
Kanaruto. Oh,
j'ai adoré Kanaruto.
Et leur Pokémon.
Oui, le... Ah, oh, le... Comme il, Kipi... Sakapi. Non, Sakapis.
Ça dépend quand tu le prononces. Tu dis Sakapi ou tu dis Sakapis, mais...
Bref, on suit donc le rédacteur en chef actuel avec d'anciens rédacteurs en chef de l'équipe qui sont tous des vraies personnes qui ont bossé chez Spirou, qui bossent encore chez Spirou.
Et qui sont sous le pont.
Et qui sont sous le pont, il y a un portrait de la bande dessinée franco-belge, mais monstrueux, ils se font bouffer par les mangas, alors il faut faire du manga. Ah, les séries girly marchent, ah, on va faire des séries girly, donc on fait venir des filles dans la rédaction, mais qui font tout partir en vrille. Des clins d'œil dans tous les sens, un clin d'œil au petit éditeur indépendant, et ils essayent de le forcer à signer un contrat chez eux, alors c'est un gros clin d'œil à The Messmaker de Gaston Lagaffe.
Et à chaque fois ça rate.
Et à chaque fois ça rate forcément, parce que lui il veut protéger son personnage de petite coccinelle.
De petite coccinelle gentille.
Voilà. Et Raoul Covin qui fait un passage dans le lot aussi, dans un rôle génial, comme quoi en gros c'est le scénariste valeur sûre de Spirou, et il en prend aussi plein les dents. Bref, il y a de l'autodérision très acide... vis-à-vis du magazine de Spirou, j'ai retrouvé un Yann que j'aimais beaucoup au niveau de cette acidité-là. Je suis vachement surpris qu'on lui ait permis d'aller aussi loin. Et puis en plus, un dessin très dynamique. Alors, c'est animalier, c'est très stylisé, mais il y a une sacrée patate dedans. Que rajouter de plus là-dessus ?
Tout est dit.
Tout est dit ? Ça t'a plu ?
Tout est dit, je me suis régalé.
T'as rigolé beaucoup ?
Oui. Oui. Non, c'est vraiment... Voilà, t'as tout un monde en fait, tu découvres tout mais tu te régales.
Là par exemple, il y a Fabrice Tarin, le gars dessinant les Myriens, c'est Fabrice Tarin, parce qu'il est toujours dessinant les Myriens quand il se dessine lui. C'est plein de clins d'œil. Alors voilà, le problème, je pense, de cet album, c'est ça, c'est que c'est bourré de références et de clins d'œil qui, si on ne connaît pas
non, ben bah, regarde, j'en ai pas beaucoup, ouais. Je me suis bien régalé.
Mais t'as dû rater des trucs sans doute.
Ah ben bah oui, mais bon, même je pense en ayant beaucoup de connaissances, j'en rate beaucoup aussi. Quand même.
Oui, je pense aussi, parce qu'il doit y avoir des private jokes bien violents. Par exemple, la paella kabyle chez Mourad, est-ce que moi j'ai eu une idée de à quoi ça fait référence, mais j'ai un gros doute. Il me semble que le patron de chez Soleil s'appelle Mourad.
Oui.
ouais.
Ouais, tout à fait.
Tout à fait. Donc, je me demande si c'est pas un clin d'œil à Soleil derrière. Je sais pas trop. Donc, bref, un bon album qui je sais pas s'il y aura une suite, mais en tout cas, j'ai bien aimé.
Et immédiatement, nous passons.
Quel changement de transition.
Si, on t'a vu ça.
41 euros pour une poignée de psychotropes.
Et voilà.
Par donc, Davy Mourier. On est encore dans la monnaie.
Vue d'un envoyé spécial.
Ah oui, vue d'un envoyé spécial.
Vue d'un envoyé, c'est écrit dessus. Hein. Ouais, alors ça ressemble à un joli cahier Oxford à spirale. Petit carreau, hein, petit format. Peut-être même cahier de TP en fait, on pourrait dire. Parce qu'il y a des pages blanches.
Il y a des pages blanches au milieu. Oui, mais c'est pas alterné.
C'est vrai. Non, ouais. C'est voilà. Voilà pour l'aspect extérieur. Et ensuite, dedans,
ça vaut pas 41 euros par contre. Hein.
Non, c'est moins cher que ça, c'est 11,90 €. Mais,
Je pense que tous les journalistes BD ont fait la blague. Ça vaut pas 41 euros par contre.
Mais ça vaut 11,90 € et ça les vaut largement parce que je me suis régalé, mais régalé d'un bout à l'autre. Alors, on suit quoi exactement ? Je te laisse.
Faire non, le pitch. Ah non, j'ai fait les pitchs précédents, vas-y, fais celui-là.
Ouais, c'est. Donc, allez. Le pitch, donc. Nous parlons ici de quelqu'un qui a fait un blog.
Je te laisse faire le pitch.
Oh non,
comme si
j'étais tout seul. Bah,
moi, je connais un peu l'auteur, je sais un peu ce qu'il fait à côté. Je sais que tu connais pas forcément, donc je veux un pitch. Tu vois, genre de j'allais dire de naïf. Non, c'est pas naïf le mot que je cherche. C'est le... Ah zut, le gars qui découvre, genre il connaît pas, c'est le mot. Il y a un mot intelligent pour ça. Bon bah c'est pas grave, je le trouverai peut-être plus tard. Donc en gros, tu es le gars qui découvre et qui connaît rien. Vas-y.
Fais gaffe, en me traitant de naïf, je me casse moi après. Hein.
Allez, vas-y.
Donc, on commence donc l'histoire sur voilà, ça fait un petit peu le petit cahier d'une vie, quoi. Il a fait son petit journal, il a tenu son petit journal. On a des dates qui sont marquées au tampon sur les différentes pages. Et on va suivre bah, toutes ses pérégrinations, tout son petit train-train. Des petits passages aussi de nos vies. Je crois que voilà, du coup, on doit être assez contemporains l'un de l'autre parce qu'on regardait les mêmes choses à la télé. Les Cités d'Or, Jace et les Conquérants de la Lumière, les Malabar Bigou, enfin voilà, tout plein de trucs. Et donc, c'est plein de petits collages de plein de choses au début. Et ensuite, on va avoir sa vie, il grandit, il se passe plein de choses. Et arrive le gros souci, la rupture. C'est essentiellement là quand même le sujet, même si avant, il y a quand même déjà plein de choses à lire.
Et la rupture et la psychanalyse.
Et la psychanalyse.
Parce que c'est ça raconte surtout, c'est l'arrivée à la psychanalyse.
Et donc, ce sont plein de petits strips.
Oui, parce que la psychanalyse est représentée par des strips qui sont sur un papier différent. On passe d'un papier, un papier glacé.
Un papier glacé,
ouais. Ouais, vas-y, la psychanalyse et...
Non, juste la psychanalyse, et puis bon, ben justement, l'avancée, ses réflexions sur le sens de la vie... Et au milieu de tout ça, donc, il y a donc, des petits dessins, des petits textes, un assemblage, des collages, plein d'idées, mais excellentes. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à... Comme si on rentrait dans le cerveau de quelqu'un et qu'on avait les images qui apparaissaient par flash. Voilà, des petits morceaux de vie. Et je me suis régalé.
Régalé.
Mais d'un bout à l'autre.
Tu t'es régalé parce que tu t'es reconnu ou parce que il y a des passages qui t'ont ou c'est parce que c'est quand même pas très très forcément super joyeux ce qu'il raconte.
Alors hein. C'est pas très non c'est clair que c'est pas joyeux mais on se reconnaît pleinement. Mais je pense que voilà il faut avoir fait un petit cheminement dans la vie pour s'y reconnaître.
C'est très plein d'autodérision en fait. Moi c'est ça que je trouve pas mal. C'est-à-dire que il est en déprime mais il s'apitoie pas sur son sort. Il y a vraiment un côté autodérision. Quelque chose que là, je viens de te regarder le refeuilleté que je trouve assez remarquable. Je ne sais pas si tu as remarqué les premières pages par rapport aux dernières. Les premières pages sont très brouillonnes et très en vrac dans tous les sens. Et plus on avance dans la BD, alors toutes les scènes de psychanalyse sont du strip. Je te parle techniquement, hein, là je suis dans l'analyse pure de la technique. Les premières pages des pages de psychanalyse sont du strip où là on a des cadres bien carrés, quelque chose de bien net, de répétitif, de clair. Sur du papier glacé, bien beau, comme tu veux. Et quand on arrive ensuite, dès que la psychanalyse commence, graphiquement, au niveau de la narration, on a quelque chose de beaucoup plus clair. Ça part moins en vrac, il y a moins de trucs dans tous les sens, les collages sont moins brouillons, les informations sont plus faciles à lire.
Je ne l'aurais pas validé comme ça.
Ouais, moi, c'est l'impression que j'ai eue.
Après, c'est comme si la psychanalyse aurait mis de l'ordre dans sa vie, tu veux dire.
C'est l'impression que ça donne. Alors après, c'est peut-être aussi parce qu'au début, vu qu'il fait quand même un gros résumé de tout le début de sa vie, un gros amalgame de beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que au niveau technique, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus clair vers la fin. Ça a gagné en clarté et en facilité de lecture. Alors, c'est pas que c'est difficile à lire au début, hein, mais il y en a un peu plus dans tous les sens.
Ouais.
Alors, bon, David Mourier est le plus geek des auteurs de BD et des animateurs, on va dire, car il est aussi animateur et journaliste sur la bande dessinée. Il fait une émission qui s'appelle Roadstrip, qui était passée sur No Life, puis sur Gong, et qui maintenant passe sur Internet, sur Ankama TV. D'ailleurs, Jean d'Ankama, si un jour vous nous écoutez, mettez un truc pour qu'on puisse savoir quand il y a une nouvelle, parce qu'à chaque fois, je les rate, alors que j'adore. Donc, c'est une émission où il parle de BD, il va faire une interview sur la BD, et il a fait une super émission récemment où il raconte son Angoulême, vu que c'était son premier Angoulême, où il n'était pas que journaliste, mais aussi auteur. Une émission très sympa. Et donc, il fait plein d'émissions dans le genre. Alors, pourquoi le vu sur Envoyé spécial sur la couverture ? Parce qu'un jour, il y a eu une émission sur les adolescents, les gens qui, en gros, restent au fond d'eux. Enfin, bon, c'est vrai qu'il y a Double Dragon dans son truc, donc forcément, c'est un peu ça. Et ils ont fait, mais un truc, c'est du n'importe quoi. En gros, ils ont récupéré des images qui l'ont fait passer, mais pour un teubé, quoi. Le mec, mais tu regardais les images d'Envoyé spécial, il passait pour un teubé, le gars qui bouffe que des sandwichs et des Mars, et qui, en gros, a une vie dissolue où il fait rien. Alors que ce mec, il fait quand même... Trois émissions par semaine, il me semble, parce qu'il y a... Non, Roadstrip, je ne sais plus si c'est... Non, c'est pas par semaine. Enfin bon, il fait pas mal d'émissions. Il a son talk show « J'irai l'olé sur vos tombes » qui est vachement sympa. Il fait Inside Ankama, qui sont plein de reportages autour d'Ankama, de la méga-corporation Ankama, on va dire. Il fait donc les Roadstrip qui sont très intéressants. Il est aussi auteur de bande dessinée. Enfin, il fait pas n'importe... Enfin, il fait pas rien de sa vie, quoi. il a fait des choix, mais alors de là à le faire passer pour un teubé dégénéré. Et c'est pour ça qu'il s'est amusé à marquer le vu sur envoyé spécial de façon très très ironique sur la couverture, pour dire « Hey, regardez, je suis le teubé que vous avez pu voir à la télé ». Voilà pour une brève présentation de cet auteur. Il a aussi, j'avais vu une interview de lui il n'y a pas longtemps, où il expliquait qu'il ne s'est dessiné que d'une façon, cette façon humoristique un peu simpliste, où il se dessine de façon, bah, c'est très simple, hein, c'est des traits très caricaturaux, très simples, mais assez torturés en fin de compte si on regarde bien. Et qui passe très bien. L'album est en noir et blanc, on a oublié de le préciser quand même, principalement, sauf quelques collages au début où il y a un peu de couleur. Ouais, il y a un peu de couleur, mais c'est quasiment que du noir et blanc, quoi. Allez. Bon, arrête de me montrer tous les trucs. Oui, il y a Maya l'abeille. Arrête de me montrer tous les trucs de couleur.
Il y a Maya l'abeille.
Bref, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que y a des choses dans lesquelles je me reconnus, je me suis reconnu, je me reconnus. Arrête de à chaque fois de te moquer de mes lapsus. Hein, c'est parce que je parle que je fais des lapsus. Des choses dans lesquelles je me suis reconnu.
Putain, tu vas avoir des soucis, toi.
Ouais. Et bon, j'ai pas connu la difficulté qu'il a pu avoir d'avoir ces ruptures, qui sont quelque chose de pas facile. Mais c'est surtout que il montre la psychanalyse comme quelque chose qui l'a beaucoup aidé, apparemment. Moi, c'est l'impression que ça m'a laissé. Hein. Que c'est...
Je dirais quand même que la vie est assez mitigée et critique, quand même. Hein.
Oui, la vie est mitigée et critique, mais... Ça lui a permis d'avancer, moi, j'ai l'impression. Je veux dire, t'arrives à la fin du tome, à la fin de l'histoire, il est pas... Enfin, il y a eu un passage, il y a eu un cap de passé.
Oui.
Une prise de conscience.
Oui.
Enfin, voilà. C'est un très bon album que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup la forme, aussi. Ça m'a donné envie de lire ces BD précédentes.
Bah, c'est surtout ce qui est agréable, c'est de pouvoir regarder chaque planche et chercher un petit peu les petits détails, tous les petits collages, les petits trucs qui sont en arrière-plan,
voilà,
cette espèce de journal intime où on a des morceaux de tout et de n'importe quoi, et l'assemblage est vraiment sympa.
Donc le 41€ pour une poignée de psychotropes, c'est coédité par Ankama et Adali, je crois, c'est le nom de l'autre éditeur, par David Mourier, et c'est bien, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé.
Yep.
Il y aurait des trucs, tiens, disons, cherchons à dire du mal de cette BD. Est-ce que tu verrais des trucs peut-être qui feraient que ça pourrait pas plaire?
Le style graphique.
Le style graphique, principalement.
Bah, disons que peut-être pas tout le monde a envie de rentrer dans le journal intime de quelqu'un.
Ouais. Voilà. C'est vrai.
C'est après. Après, je dirais que ouais, c'est vrai que bon, comme ça change souvent aussi, parce qu'il y a, je pense qu'il fait aussi plein de tests dedans, quoi. C'est, j'ai envie de dessiner comme ça aujourd'hui. Je fais un collage comme si. Enfin. Il y a rien de, enfin il y a pas une continuité, on va dire, dans le dessin. Peut-être ouais. Que ça pourrait être, mais sinon franchement non j'ai bien aimé. Alors du coup je peux pas te trouver de point négatif.
D'accord.
Si le cahier spiral, ça m'a fait penser à l'école.
Oui, je pense que c'est moi, je pense,
mais j'y passe trop de temps.
Je pense aussi que c'est à conseiller un peu à cette génération dont nous sommes les premiers les premiers, on va dire, entre 30 et 35 ans, tu vois, on est un peu dans ce côté-là, les gens qui regardent encore des dessins animés, quoi.
Ah non, hein, j'ai arrêté.
Non, on a arrêté. Hein, c'est pour les mômes.
C'est pour les minots, ça. En plus, de toute façon, ils sont pourris, les dessins animés, maintenant.
Oui, bah, passons aux minots, passons à Urban Revolts
2. Non, pardon, ça, c'est le prochain numéro.
Chez Quantique. Nous allons commencer par remercier le scénariste Edmond Touriol qui nous a envoyé cette BD pour qu'on en donne notre avis. Edmond Touriol, qui est connu pour être surtout un traducteur, qui a pas mal traduit chez un peu tout le monde en fait. Il bosse pas mal chez Delcourt en ce moment. Il traduit Kirkman principalement. C'est en gros le gros traducteur de Kirkman. Donc il a fait les The Walking Dead. L'Invincible. Il avait fait plein d'autres trucs avant. Il me semble que c'est lui qui avait fait tout ce qu'il y avait chez CrossGen à une époque, chez Semic. Enfin bon, ça fait un moment qu'il traduit et cette traduction me semble assez honnête. Bon, après, je peux pas vérifier, je lis pas forcément les originales. Mais j'ai rien vu d'aussi terrible que certains trucs que j'ai pu lire en traduction. Bref, sympathique. C'est dessiné par Zuki, c'est son nom, mais je crois que c'est une jeune fille au dessin, qui, comment, malgré le prénom qui est Rochio, j'ai un doute énorme, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis ça dans la tête. Et c'est dans l'univers d'un jeu en ligne, une sorte de jeu de cartes à collectionner en ligne qui s'appelle Urban Rivals. Donc on est typiquement dans du produit dérivé. Que raconte Urban Rivals ?
L'histoire de d'un jeune gars qui ne sait pas quoi faire.
Surtout, ouais. Et il sait qui... quoi faire, ça.
Oui.
Il fait du trafic.
Voilà. Et il se retrouve finalement obligé de rentrer dans les rescues. Et là, il va être obligé de faire le bien.
Oui, il se fait choper. En gros, il est obligé de se retrouver à bosser. Il se fait gauler à dealer des montres. Il se retrouve obligé de bosser dans... Enfin, en gros, une sorte de médic de cet univers-là.
Le 911, quoi.
Ouais. Des gens qui vont soigner les gens.
En courant.
Voilà.
Avec un sac à dos sur le dos.
Ouais. Voilà. Et en parallèle de ça, on voit qu'il y a des combats de rue qui s'organisent et où, en fait, il y a des gens qui se font enlever et droguer pour participer à ça. Et donc, bah, forcément, il finit par enquêter sur le sujet. Bien.
Alors.
J'attends ton avis.
Alors, déjà, je dirais première page, couverture, on arrive à... Une bonne approche. Moi, quand j'ai vu le personnage principal, il m'a fait de suite penser à Alex de Orange Mécanique. Et je ne suis pas trompé, parce que quand j'ai ouvert, j'ai eu quelques planches, quelques cases qui m'ont vraiment fait penser...
Tu parles de l'animateur... Le héros, carrément. Alors, ça fait penser
sur la couverture, sur la couverture, regarde, avec les yeux noirs comme ça. Oui. C'est, pour moi, c'était Orange Mécanique. Après, quand j'ai ouvert la première page, tu as l'autre avec le chapeau... qui te fait clairement penser à une image d'Orange Mécanique.
Oui, effectivement.
Voilà, je me suis dit, ah, on va avoir, bon, je me suis dit, peut-être que ça va être une sorte de petit clin d'œil, ou peut-être que ça va un peu initier le truc. Et après, j'ai eu l'impression que c'est ça aussi, et voilà, ils n'ont pas choisi le style, quoi.
Graphiquement ?
Pas graphiquement, mais au niveau du scénario, je me suis dit, bon, est-ce que ça va être voilà, un scénario de violence, un peu comme Orange Mécanique, violence gratuite ?
Ouais.
Mais en fait, non. On est parti sur un truc de manga.
Manga, toi, tu trouves ?
Pour moi, je...
Bon, dis-le, tourne pas autour du pot, t'as pas aimé. Voilà. T'as pas aimé.
J'ai pas aimé, bon, parce que d'une part, bon, je fais pas le jeu à collectionner, première chose.
Ouais,
deuxième chose,
pas l'univers,
je n'ai pas l'univers, voilà. Donc. C'est sympa, ça se lit, hein, je veux dire, mais bon, j'en ferai pas des folies. Voilà, ouais. Je pense que, bon, je suis peut-être pas... Je suis trop vieux, peut-être.
Ouais, peut-être pour un public plus ado, effectivement, à fond dans ce jeu-là.
Non, plus bah... ado, pas plus ado. Parce que...
oui, effectivement. Bah, moi, graphiquement, j'ai trouvé ça très sympa. Il y a un peu des inégalités. Les couleurs, bon, parfois un peu...
ça pique.
Sont un peu trop saturées, un peu trop violentes. Ça colle bien avec un univers baston, hein, parce qu'apparemment, le truc, c'est un jeu de cartes à collectionner sur ordinateur où c'est des personnages qui se tapent dessus. Donc forcément, il y a ça. Je pense que... scénaristiquement, il y a des lacunes au niveau de l'univers pour moi. Après, au niveau de l'intrigue, c'est assez basique, c'est assez simple, effectivement. Il y a une ouverture vers quelque chose qui a l'air intéressant, je trouve. Peut-être une intrigue un peu plus avancée, mais pour le moment, c'est vrai que c'est un peu bateau, quoi. Peut-être parce que le coup de la drogue qui rend super fort, on l'a déjà lu en mieux dans du Daredevil, par Bendis et Malev à l'époque. Donc, mais c'était pas non plus le même public qui était visé. Bref, j'étais un peu, ouais, pas mauvais, mais un peu plat.
Bah, disons, et puis moi l'approche, voilà, quand j'ai vu mes premières cases, je me dis c'est peut-être un petit délire sur Orange Mécanique. Bon, c'est vrai qu'après, je suis vite retombé dans autre chose. Hein.
Puis je pense qu'il y a aussi les limites de l'univers, malheureusement. C'est-à-dire qu'en gros, bah, y a des castes dans l'univers. En gros, ça doit être les types de cartes. Il y a les sentinelles, les rescues, les je sais pas quoi. Et c'est vrai que ça faisait vraiment comme poser dans l'intrigue pour que le fan puisse s'y retrouver. Et moi, ça m'a un peu... ouais, c'était un peu le cheveu sur la soupe, le truc. Regardez, c'est un des rescues, comme dans le jeu. Ça donnait un peu cette impression-là. Comme quoi, c'est un univers qui est peut-être cohérent pour un jeu de cartes, mais peut-être pas assez pour une bande dessinée en fin de compte. Et puis graphiquement, bah, j'ai trouvé le dessin très très sympa, même si parfois il y a des passages en SD, genre manga super déformé, etc. Et puis parfois, il y a des passages qui sont entre les deux. C'est-à-dire que quand on a le héros sérieux et le héros en super déformé, ça va, mais quand on est entre les deux, Je sais plus trop quoi au niveau de l'effet recherché, ce que ça doit donner.
Le collège foufoufou en fait.
Ouais, il y avait le collège foufoufou, mais le collège foufou c'est très bien, le côté super déformé quand il se fait engueuler, quand il va se faire taper dessus. Mais voilà, non, j'ai trouvé que c'était un. J'étais pas le public visé, je connais pas le jeu, ça a l'air de viser un public plus jeune. C'est pas mauvais en soi, mais c'est pas le truc qui m'a emballé plus que ça, quoi. Voilà.
L'avis est conforme, on est pareil tous les deux. Mais bon, faut qu'on arrête de dire que c'est pas notre parce que c'était plus jeune, parce que du coup, on passe vraiment pour des vieux cons.
Quand ouais, même. On passe pour des vieux cons. Mais c'est vrai que le dessin, en tout cas, moi, m'a bien plu, quoi. Il y a pas mal de planches, vraiment super sympa. Il y a même deux, trois trucs dans le texte. Putain, il y a un truc qui m'a fait mourir de rire. Je sais plus ce que c'est. Il fait une réplique à un moment qui est une référence à je sais plus quoi, mais qui m'a fait mourir de rire. Ça y est, je l'ai perdu. Je la retrouve pas.
Bah, pendant que tu cherches, moi, ce qui m'a, j'ai une question, par contre, si on ne sait jamais, peut-être les auteurs nous écoutent. Pourquoi est-ce que le Scott, qui est donc juste après la couverture, est un peu transparent sur la vue de la ville? Est-ce que c'est parce que Scott va mourir? Ou est-ce que c'est vraiment le héros principal? C'était juste un effet de style.
Où ça, sur la couverture?
Ouvre, vas-y. Et en fait, tu as une vision de la ville et tu as Scott en fait, qui est transparent.
Ah oui, c'est bizarre sur le
Alors, du
quatrième ou
coup,
sur le deuxième de couverture. Oui.
je me suis posé la question.
Ah non, j'avais même pas fait gaffe en fait. Bon, j'ai pas retrouvé la ligne qui m'a fait mourir de rire. Et il y a une carte en bonus avec, pareil pour les joueurs. Bah voilà.
Ça vaut peut-être une... ça mériterait peut-être un petit peu plus d'explications au niveau du monde et du scénario, quoi.
Ouais, peut-être qu'un préambule pour
Un petit
décrire
préambule, ça aurait été
l'univers
sympa.
ou donner un peu plus de profondeur, un peu plus de richesse en fait. On sent qu'il y a une richesse survolée quelque part. Bref, on va arrêter
Même un
d'essayer
petit
de.
préambule, tu vois, en 4-5 pages, juste toujours en BD, même pas un texte, hein, mais comment c'est, quoi?
Voilà,
Petite
donc
explication. Enfin bon.
alors c'est pas la première BD dans cet univers, il y en a eu une autre, mais qui était vendue uniquement sur Internet, je crois, ou bien alors qui met en ligne sur le site du jeu. Donc c'est un univers qui doit bien marcher, qui est en pleine expansion. On aura sans doute d'autres produits dérivés. Moi, tout ce que je leur souhaite, c'est de réussir à faire ce qu'ont réussi à faire Ankama avec leur bande dessinée, où ils ont commencé avec des trucs, ouais, avec Dofus, ils ont commencé avec des trucs très très manga, très très basiques, qui moi m'ont pas branché plus que ça. Ils ont réussi à ensuite enchaîner sur quelque chose de beaucoup plus mature en gardant le même pool d'auteurs. Vas-y, parle dans le micro.
C'est ce qu'on a... Ouais, ça va, j'ai tendance à m'allonger. Hein. C'est ce qu'on avait... Ce dont
Oui, non, en parlant de Remington.
on... Remington, voilà.
Voilà, donc c'est un peu oui ce qu'il y avait dans Remington. Mon Remington, pour moi, c'est un peu le bas du panier de tout ce qu'ils font dans l'univers Dofus. Hein. Enfin, pas le bas, le milieu, on va dire.
Oh putain, la vache.
Non, non, parce que je sais pas si t'as feuilleté Pandala, par exemple. Enfin, bon, on est dans le hors-sujet, c'était superbe. Bref.
Voilà,
Bon.
on leur souhaite bonne chance et qu'ils grandissent hein, et que ça se passe super bien pour eux, mais moi c'est vrai que ça m'a pas éclaté. Mais peut-être que d'autres personnes trouveront ça excellent. Chacun ses goûts.
Passons à l'intégrale.
Tintin.
L'intégrale, nous allons parler de sur les traces de Dracula. L'intégrale et le guide, ça tombe bien, c'est un intégral et ça en parle d'un intégral. Qu'est-ce qu'on est fort des fois. Ça coûte 29,50 €. L'éditeur, c'est Casterman. Et c'est en fait une réunion de trois albums, scénarisés par Yves H. et dessiné par des auteurs différents dans l'univers de Dracula.
Bien résumé.
Ouais, bien résumé.
Pour la vache, t'es fort.
Ouais, je sais.
T'es trop fort en résumé en fait.
Ouais, tu dis ça pour plus que pour plus les faire.
Oui, mais du coup, si je fais même plus ça, je vais pas faire grand-chose, hein.
Bref, la première histoire, dessinée par Herman, le
L'histoire de
papa
Vlad.
de Yves H., nous raconte l'histoire de Vlad Tepes. C'est résumé, hein, c'est quelque chose de très 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 historique, ça nous raconte l'histoire de Vlad Tepes. Graphiquement, moi j'aime beaucoup le dessin de Herman, j'adore, surtout quand il est en couleur directe comme ça, c'est beau.
C'est beau.
Voilà. Par contre, scénaristiquement, waouh, ah, qu'est-ce que c'est lourd, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est une histoire, mais qui aurait pu être mise sur 4-5 tomes, et que ça a été super condensé, et que. Ça manque. Il y a des passages qui ont l'air épiques, mais qui sont tellement balancés comme ça les uns à la suite des autres, que ça manque de tension.
C'est un récit historique, donc du coup, ça fait très Voilà, tu prends ton livre d'histoire et tu le feuillettes, quoi.
Ouais, sauf qu'il y a des belles images.
C'est oui, il y a des belles images, donc ça met un gros bonus, mais c'est clair que je trouve que ça manque de dynamisme.
Ouais, manque beaucoup de tension dans le rythme, quoi. Et c'est un peu. J'ai eu du mal à arriver au bout, quoi. Ça m'a un peu. J'ai eu du mal à arriver au bout, ça n'a pas été évident.
Mais le soir avant de dormir, ça se fait super bien.
Ah ouais, mais je peux pas lire deux pages après deux pages, quoi. Deux pages par jour, je peux m'en sortir.
Sans compter qu'il faut que tu relises les deux précédentes, ouais. Parce que tu t'en rappelles pas.
Donc je l'ai lu en plusieurs fois. L'histoire suivante est dessinée par Serra, que je ne connaissais pas, mais dont j'ai beaucoup apprécié le dessin aussi. Un dessin beaucoup plus sombre, parce que mon Herman a un style très. C'est des aquarelles, c'est très pastel, c'est très doux comme style. Et là, on arrive sur un style beaucoup plus sombre, qui fait penser un peu à de la gravure avec des collages. Tu sais, les décors de Malève,
oui.
Qui joue avec ses photocopies, etc. Ça me fait penser un peu à tout ce côté-là qu'on peut avoir. Donc moi, un style que j'ai beaucoup aimé. Et qui là va nous raconter l'histoire de Bram Stoker, donc l'auteur de Dracula. Et ben là, pour le coup, on retrouve un peu les mêmes défauts. Au niveau scénaristique.
Ouais, mais encore une fois, la beauté compense beaucoup de choses, quoi.
Ouais. Par contre, quelque chose qui était plus intéressant, justement, c'est que les moments de la vie de Bram Stoker sont mêlés à des passages du roman Dracula. Et ça met en perspective des passages du roman en fonction de ce qui se passe dans la vie de Bram Stoker. J'ai trouvé ça vraiment, franchement, je l'ai lu un peu plus rapidement que le précédent. Toi, t'en as pensé quoi ?
Alors, je l'avoue, hein, ça fait quand même quelques temps que je l'ai lu, parce que du coup, c'est un petit peu long à lire. Donc, du coup, le temps que toi, tu finisses de le lire et qu'on fasse l'émission semaine.
Blablabla.
On va dire que pour moi, c'est monté un peu crescendo, quoi. Au fur et à mesure, je trouve ça de plus en plus intéressant.
Cette histoire-là, celle-là de Bram Stoker.
De Bram Stoker.
Oui, surtout que, plus tu avances dedans, plus ça se fait biopic, plus tu avances dedans, plus tu dis « Ah, le pauvre, il en chie, non, mais ça va finir, ça va être... Waouh, ça va être... » Ça retombe, mais à plat, c'est terrible. La fin de l'histoire est dure, je trouve.
Voilà, pour moi, c'est vraiment monté crescendo. Et à la fin, je me suis... Voilà, la lecture au début un peu lente, après, c'est vraiment bien parti. Bien parti. C'était, moi, j'ai trouvé vraiment, surtout au niveau graphisme, vraiment un truc intéressant.
Et enfin, la dernière histoire, dessinée par Danny. Et là, on va encore redire le... Oui, mais c'est pas pour ça. Danny, qui donc est connu pour les Olivier Rameau, qui était très très sympathique, c'est Olivier Rameau, pour Histoire sans héros, qui avait fait avec Van Hamme en 77 et en 97. Il avait fait une suite 20 ans après qui était très sympa, enfin c'est une bonne histoire d'aventure. Et aussi pour les Black Coquines.
Money.
Voilà, Money qu'il a fait. Voilà. Et Money au carré, les guerrières de Troie. Des filles dans l'univers de Troie. Pouf, Money.
Et puisque de toute façon, tout ce qu'il y a Troie derrière,
c'est Money.
C'est Money. Toujours.
Voilà. Et donc, qui là dessine donc une intrigue contemporaine. Qui pour le coup est totalement original, sur un dessinateur qui cherche à se documenter pour une BD sur Dracula. Et qui donc part faire un voyage en Roumanie sur les traces de Dracula et où il se passe des choses étranges. Il y va avec sa femme qui l'accompagne. Et là, effectivement, Danny a toujours un talent mais pour faire les femmes. Puis on voit aussi que il y a un vrai travail graphique qui fait pas ça rapidement, même si quand il dessine rapidement, ça reste joli. C'est ça qui est énervant avec ces bons dessinateurs. Mais là, en plus, on sent que c'est appliqué, que c'est beau, c'est vraiment superbe. L'histoire a un bout de fantastique qui est intéressant. En plus, y a des jolies filles, hein, donc ce qui est un peu la valeur forte chez Danny. Mais pareil, j'ai trouvé l'histoire un peu plan-plan. Ouais. J'adore tes commentaires sonores.
Ouais, mais écoute, là, c'est vrai que je suis un peu. Disons que j'ai trouvé que c'était trop du Danny. Voilà, il y avait trop de dessins et pas assez de scénarios.
Trop de dessins, pas assez de scénarios ?
Non, mais dans le sens, voilà, là, le dessin. Il...
Un dessin en un ou deux mots ?
Je n'y avais point pensé.
Oh.
Mais ouais, on pourrait se rapprocher de ça, voilà. Non, c'est que là, au niveau l'idée de départ, le pitch de départ est intéressant.
Ouais.
Mais ça manque un peu de matière, quoi. Et puis bon, la fin.
Oui. Une chute pas fantastique.
Ouais, bof. Voilà. Mais c'est le seul truc qui est dommage. Après, sinon, donc, on arrive quand même à tout un document sur les vampires, la Roumanie.
En fait, entre chaque histoire, à la fin de chaque histoire, il y a un petit côté encyclopédique. C'est-à-dire, à la fin de la première histoire, on a un côté encyclopédique sur Vlad Tepes, historique, etc. À la fin de la deuxième histoire, on a un côté sur. Sur Bram Stoker, qui nous raconte un peu des détails de sa vie, des choses qui n'ont pas pu être évoquées dans la BD. À la fin de la troisième histoire, celle dessinée par Dany, donc, on a un dossier sur les vampires, de règle générale, leur origine, d'où ils viennent. Et enfin, il y a tout un guide à la fin.
Pour aller se balader.
Pour aller se balader sur les traces de Dracula, et qui suit donc principalement la Roumanie, hein, qui est le gros morceau, avec vraiment un parcours à suivre en Roumanie pour voir les différents endroits en rapport avec le mythe de Dracula. Et ensuite, différentes destinations en Irlande, en Turquie et un peu aux États-Unis qui ont un lien avec Dracula, mais là, c'est plus quelques endroits qui seraient intéressants à visiter. On est vraiment dans le guide touristique, très orienté, donc moi je trouve ça assez sympa. Ça donne envie peut-être de faire un tour en Roumanie pour voir ce côté-là. C'est vraiment une valeur ajoutée. Globalement, que dirais-tu de cet album ?
Une bonne intégrale.
Ouais.
Disons que c'est très documenté. Les bandes dessinées ont un très bon graphisme, mais manquent singulièrement, je trouve, de matière, quoi. Il aurait peut-être fallu sur les scénarios arriver à faire des trucs un peu plus péchus, quoi.
Moi, c'est pas la matière qui a manqué, parce qu'il y en a de la matière. C'est dense.
Je l'ai mal exprimé, mais voilà, c'est donc le manque de matière pour moi, c'est dans le sens il y a pas ce qui nous il manque le truc qui ferait que tu avances dans la BD, mais tu t'éclates, quoi.
Oui.
Là, tu regardes simplement le dessin et tu te dis ouais, il est beau. Mais le scénario te fait chier, quoi.
L'histoire est intéressante, mais la façon dont c'est raconté, c'est mou. C'est... Voilà. Donc, en gros, si vous voulez en apprendre sur Dracula, ça vaut un bon bouquin sur le sujet. C'est très, très bien documenté. Ouais. Les dessins sont superbes. En plus, toutes les parties guides, les parties documentaires sont illustrées par des croquis des auteurs. Alors, je ne sais pas s'ils ont été sur place ou s'ils sont basés sur des photos, j'en sais rien. Vraiment très, très, très sympa. J'ai beaucoup aimé ce côté-là. C'est un très, très beau livre pour ça. Et si on s'intéresse un tant soit un peu au mythe de Dracula, ça vaut le coup. Ensuite, effectivement, il ne faut pas l'acheter si on veut une super BD de référence sur les vampires. Il y a des BD sur les vampires bien plus intéressantes.
Oui.
Plus fun, on va dire. Pas intéressantes.
Plus fun.
Plus fun. Voilà.
Il y a Bouffi.
Non. Et Rapace. Hein ? Fun.
Il y a des belles meufs.
Ah oui, et puis c'est fun, Rapace.
C'est fun.
Voilà. J'ai pas dit que c'était intéressant, tu vois. C'est fun.
Mais c'est fun.
Voilà. Bref, c'est le balancier, si vous connaissez Rapace, par Marigny au dessin, je ne sais plus qui au scénario.
Dufaux,
je crois, ouais. Si vous connaissez Rapace, c'est l'inverse. sauf que d'un point de vue scénaristique, c'est l'inverse.
Donc en fait, il y avait rien dans le scénar, mais par contre, il y a des dessins qui te déchirent.
Non, il y a les deux. Non, d'un point de vue scénaristique, c'est l'inverse. Les scénars dans les. En gros, avec Rapace, on s'éclate, c'est fun, etc. Il y a des beaux dessins et des jolies filles. Et dans celui-là, c'est encyclopédique, c'est un peu chiant, mais il y a des beaux dessins et des jolies filles. Voilà. La conclusion de la mort.
Eh ben, écoute, hein, on va en rester là.
Eh bien, ouais, parce qu'on va passer au online.
Le online est pour une fois.
Ouh !
J'ai vu tous les online, j'ai tout vu.
T'as tout vu ?
Enfin, presque.
Presque, ouais.
Presque, non mais attends.
Alors,
par rapport au online d'habitude, j'en ai quand même vachement plus vu que ce que je fais normalement.
Déjà, en plus, aujourd'hui, on va parler de trois sujets en online. D'habitude, on n'en fait qu'un. Mais l'actualité est assez riche. Sur ce qui se passe sur internet. On va d'abord parler justement de l'actualité, on finira par la petite BD que j'ai sélectionnée et on va commencer par l'initiative 8 Comics, ou 8 Comics, je ne saurais dire. Très sympathique initiative montée entre autres par Fabien Wellman, Cyril Pedrosa, les frères Jouvray. Qu'as-tu pensé de Hate Comics? En gros, le principe, c'est des auteurs de BD qui se sont mis en commun pour proposer en ligne, gratuitement, des bandes dessinées. Des bandes dessinées soit qui ont déjà été publiées, soit qui ne l'ont jamais été et qui vont l'être bientôt, ou bien alors carrément des bandes dessinées qui cherchent un éditeur. Il y a donc 8 bandes dessinées, il me semble, si je ne me trompe pas, je dis peut-être une bêtise, de qualité assez variée, il y en a un peu pour tous les goûts, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. C'est un peu une expérience qu'ils ont décidé de lancer avec leurs éditeurs. Alors c'est Fabien Wellman qui n'est pas le seul l'initiateur du truc, mais c'est lui qui est un peu le porte-parole de ça, qui disait que l'objectif c'est de voir si ça va avoir une influence sur les ventes. Est-ce que la publication de la BD L'île aux 100 000 morts de Wellman et Jason, qui est parue actuellement, qu'on peut acheter en librairie en ce moment, là il y en a quelques planches qui sortent chaque semaine. Il n'y a toujours que 4 semaines de publication qui sont visibles. Donc là, pour le moment, on peut encore tout voir, mais d'ici 2 semaines, les premières planches ne seront plus visibles. Mm-hmm. Ce qui fait que la BD n'est pas en ligne tout le temps, etc. Mais la question, c'est est-ce que ça va avoir une influence sur les ventes? C'est quelque chose d'intéressant. Et puis surtout, ça permet à des projets qui ont peut-être été refusés par des éditeurs de voir le jour. Ils sont vraiment rentrés dans le principe de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas décider de devenir un éditeur de BD sur Internet. Ils ne vont pas... Ils n'ont pas l'intention de rajouter des BD sur leur truc. C'est leur expérience. Ils ne savent pas ce que ça va donner après.
Bon, en tout cas, déjà, pour en avoir lu quand même plusieurs, c'est assez hétéroclite au niveau donc, du dessin, au niveau des sujets. Mais dans tous les cas, il y en a quand même certaines, très honnêtement, ça me donnerait bien envie quand même de les acheter.
Oui.
Alors certaines sont déjà parues, mais c'est vrai que d'autres, je sais pas, Portugal, c'est ça que tu m'as...
Ouais, Portugal, oh, comme c'est beau.
Portugal, c'est Pedrosa. Aussi...
c'est prévu pour la fin de l'année, ça.
Ouais, ça j'aimerais bien, ouais.
Ouais, le Portugal, c'est beau, et je pense qu'effectivement, en plus, c'est quelque chose qui se lira beaucoup mieux en album que sur Internet. Portugal de Cyril Pedrosa. Donc on va parler un peu de celles qui nous ont marqué dans ce qu'on a lu. Donc moi, ouais, pareil, il y a le Portugal, de toute façon, c'est celle que je t'ai conseillée, donc ce sera les mêmes. Donc le Portugal de Cyril Pedrosa, qui en gros... L'objectif de Cyril Pedrosa, c'est de raconter sa relation avec le Portugal, parce que c'est ses origines, sur 3 générations. Avec un style graphique super beau, des couleurs magnifiques. Enfin, moi, je suis tombé amoureux de son dessin. Puis la narration, c'est une façon de raconter le quotidien. Et il se passe des choses quand même, enfin quelque chose de superbe. J'attends vraiment de voir ce que ça va donner par la suite. Je vais continuer à le suivre sur Internet. Mais effectivement, ça donne bien envie pour la suite. Autre truc, justement, on en parlait, c'est l'île aux 100 000 morts de Wellman et Jason.
Moi, j'avais lu le petit fascicule que tu m'avais...
Le petit fascicule promotionnel que Glenna avait distribué en librairie.
Et j'avais déjà lu Jason sur...
Tuer Adolf Hitler. Je sais plus. Enfin,
J'ai tué Adolf Hitler, je crois. Ça m'avait bien plu. Donc, du coup, là, c'est vrai que voilà, le petit... L'île aux 100 000 morts, voilà, le petit fascicule m'avait bien donné envie, déjà. Maintenant, c'est vrai que là, du coup, je vais peut-être pouvoir lire la suite. Et dès qu'on montera un peu sur notre boutique, on ne fait pas de pub.
Ceci est de la pub discrète. Money.
Oui, mais attends, ils ne donnent rien.
Oui, bon, oui.
Mais voilà, il y avait quand même... Donc ça, c'était intéressant. Il y avait aussi... alors là, le nom, je ne l'ai pas. Ah, c'était joli au niveau du dessin. Le nom, c'était un fight.
De quoi le...
Toujours sur Hate Comics.
Sur Hate Comics, un autre truc qui t'a plu. Ah oui, le Ara.
Ara.
Oui, avec un de Team, je sais plus comment. De toute façon, il y aura tous les liens dessus. Qui était vraiment très très joli, graphiquement. Après, j'attends de voir ce que ça va donner, parce que là, il n'y a pas eu beaucoup de planches donc, par la suite. Et quelque chose qui était très 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 drôle. C'est. Ah, j'ai encore oublié le nom. Vraiment, ouais, on est des buses hein, sur cette crème.
Tu regardes, hop, t'es mort, tu te retournes, tu prends le truc.
Le fond des choses, oui, par Jérôme Jouvray, qui nous raconte un peu des problèmes de fondement.
Et c'est une bonne poilade.
Ouais, ça fait très penser à du stand-up dans la façon dont c'est raconté. C'est très, très, très drôle. Enfin, bon, après, il y a Jess qui aussi publie dessus. Alors là, j'attends de voir comment ça va évoluer un peu, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de planches, mais c'est intéressant. Il y a justement les frères Salcedo.
Ouais. Nous ne sommes pas des héros.
Qui avait fait Nous ne serons jamais des héros.
Nous ne serons jamais des héros. Ouais.
Qui ont aussi leur BD. Pareil, il n'y a pas eu beaucoup de planches. J'attends de voir ce que ça va donner. Enfin bref, un projet très très intéressant. Autre projet intéressant, C'est l'éditeur Manolo Sanctis qui reproduit l'expérience qu'ils avaient fait avec Thomas Kaden et qui avait donné le bouquin 13 mètres 28, dont on a déjà parlé. C'est-à-dire que Thomas Kaden, qui est aussi connu pour être le scénariste de la bande dessinée Les Autres Gens, dont on a aussi déjà parlé.
Ouais, les actions chez lui, en fait.
Ouais, c'est ça. Faudrait peut-être qu'on achète les BD qu'il a fait en papier. Paraît que c'est vachement bien, ces sextapes qu'il a fait, qui paraît-il très très sympa. Plus le nom est porteur. En gros, il a publié 16 pages qui posent une situation. La situation, c'est qu'il y a une sorte de nuage rouge qui s'étend au-dessus du ciel et qui est en train de recouvrir le monde petit à petit. Il montre des personnages qui sont en train de réagir vis-à-vis de ça. Apparemment, il y en a qui décident d'aller voir le nuage, le toucher pour voir, enfin, on ne sait pas exactement. Et ensuite, il demande aux gens, à tous les dessinateurs, de publier, proposer 8 planches qui se passent à un moment de l'évolution de ce nuage. Donc, il explique qu'au moment de ce qu'il raconte, le nuage est à peu près étendu à 20% au-dessus du monde. Il explique les propriétés de ce nuage, ce qu'il implique sur le monde, ce qu'il fait de bizarre. Enfin, c'est un peu apocalyptique, hein. Et il propose à chacun de faire une histoire et de commencer en utilisant les personnages qu'il a déjà introduits et de dire où en est le nuage à chaque moment. Est-ce que ça va être à 5%? Est-ce que ça va être à 80%? Pour ensuite sélectionner les BD, s'arranger pour trouver des liens entre elles, c'est-à-dire que les gens travaillent vraiment en communauté sur le site Manolo Sanctis, et faire un album au final, c'est ce qui avait été fait avec 13 mètres 28. Donc il y a déjà pas mal de propositions. Moi, je trouve le sujet vraiment intéressant. Si vous êtes un dessinateur en herbe, je vous recommande vraiment d'aller y faire un tour. C'est une bonne occasion, je pense, d'essayer de se faire publier.
Ouais.
Et puis surtout de participer, je trouve, une aventure scénaristique et créative super intéressante.
Bah, nous, 13 mètres 28 nous avait bien régalé, donc j'attends la suite.
Ouais, ouais.
Bah, enfin, pas la suite, mais ce nouveau projet qui devrait être, je pense, aussi intéressant.
D'ailleurs, il y a certains des auteurs de 13 mètres 28 qui ont publié chez Manolo Sanctis depuis.
Tant mieux.
Et enfin,
Nothing is
Forgotten de Ryan Ha.
Et donc on finit sur une ambiance joyeuse.
Une petite histoire.
Sans texte.
Sans texte, donc c'est anglais, mais c'est sans texte, donc tout le monde peut le lire, même les étrangers.
Ben c'est bien. C'est bien, c'est plaisant.
C'est une succession de petites cases, de cases carrées, qui ont toutes le même format, mais qui nous racontent, vas-y, dis le pitch.
Alors le pitch, en fait, le début, hein, c'est l'enterrement du papa d'un petit garçon.
Wouhou, c'est la joie, le bonheur.
Voilà, donc on a les bonnes images, vues d'en bas en contre-plongée, vues d'en haut avec une bonne vue plongeante sur le gouffre béant, et le retour à la maison avec la maman. C'est joyeux, ça pleure et tout, et puis au fur et à mesure, bon, bah, l'histoire avance, et
le petit trouve un arbre.
Un arbre, et alors là par contre, je pense que c'est une belle référence quand même à Miyazaki.
Oui.
Là, les créatures ressemblent très similaires, et bon voilà, enfin, pas tuer le suspense, hein, mais...
Ouais, c'est assez voilà. Court, c'est très sympa, c'est très joli graphiquement, c'est un noir et blanc.
Ça a l'air assez... Enfin, moi, ça me fait vraiment penser à un truc un peu onirique, on ne sait pas si ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, ce qui est dans le rêve, ce qui ne l'est pas non plus. C'est...
Et puis une fin assez ouverte justement sur le sujet,
ouais.
Que tu n'as pas forcément apprécié, apparemment tu aimes bien avoir des réponses.
Ben, j'aurais bien aimé qu'il y ait peut-être une ou deux cases de plus.
Ouais.
Parce que du coup, le petit bonheur du petit garçon, est-ce qu'il est complet ou pas, quoi.
Ouais.
Est-ce qu'il est arrivé au bout du chemin.
On vous laisse vous faire votre idée en le lisant. C'est assez court, c'est vraiment très sympa. Tous les liens seront disponibles avec nos widgets de monnaie. On va passer pour des gens totalement vénaux qui ne font ce podcast que pour gagner des sous.
Nothing is Forgotten, a priori, il n'y aura pas de widget monnaie.
Non, il n'y aura pas de widget monnaie. C'était juste pour le placer. Donc sur lavoixdesbulles.fr. On a fini.
Yes.
On a fini cette super émission. Ben, comme d'habitude, hein, vous pouvez nous trouver donc sur le site www.lavoixdesbulles.fr. Nous sommes aussi présents sur Facebook, il y a une page donc Facebook le One A Club, les liens seront présents aussi sur le site, puis les pages Facebook ont évolué, c'est devenu vachement plus sympa que ce que c'était avant. Toujours sur iTunes, vous pouvez nous laisser des commentaires, ce sera avec plaisir que nous les lirons et que nous vous y répondrons. Il a répondu. Thio a répondu à un commentaire sur le blog, c'est énorme, c'est fantastique. D'ailleurs je remercie Bub qui est un peu notre fan numéro 1, j'ai l'impression, car il nous laisse toujours des commentaires bien sympathiques. C'est toujours un plaisir de le lire. Merci, Bum. C'est bien. Et puis n'oubliez pas le One A Club Auton. Faites descendre
des commentaires
iTunes qui dit qu'on est débutant. On n'est plus débutant. J'ai pas dit qu'on était bon, mais on n'est plus débutant.
Non, en fait, ça veut dire que du coup, on n'a plus d'excuses maintenant.
Voilà. Sur ce, je vous souhaite à vous une bonne semaine, car vous pourrez écouter la semaine prochaine le 1A Club avec notre invité Antoine Boza, qui nous parle de l'encre du passé et d'autres choses. C'était une très très sympathique émission enregistrée. C'est enregistré il y a un petit moment maintenant, mais bon, on la publie que là. Et on se retrouve dans 15 jours pour une émission Tout ce qui est de plus normal, où je peux déjà vous annoncer qu'on parlera de Légende de la Garde, de la Marche du Crabe, de Homerde, du dernier intégral de Valérian, de l'Appel de l'Espace et du tome 4 de The Walking Dead. Et je pense que ce sera déjà pas mal.
Yes. Au revoir.
À bientôt.